Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors justement, pour prendre soin de vous, pour vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent, il est là, c'est mon acolyte tous les jours dans ce studio, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au menu aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré au dépistage du cancer du sein. Nous sommes à la veille de l'opération Octobre Rose, dont vous avez, j'en suis sûre, déjà entendu parler. Un mois pour sensibiliser les femmes à l'importance de se faire surveiller, dépister contre cette maladie qui tue encore près de 12 000 femmes chaque année en France. Alors, pour en parler, nous recevrons le professeur Mahasti Sagatchian. Elle est oncologue médicale à l'Institut Gustave Roussy et à l'Hôpital Américain. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de la colique néphrétique. Ceux qui en ont déjà eu une s'en rappellent forcément et grimacent déjà, j'en suis sûre. Alors pourquoi ce caillou, ce calcul se forme-t-il dans les voies urinaires et dans le rein? Comment ça se traite et surtout comment éviter la récidive? On fera le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à une jeune femme qui ne comprend pas pourquoi l'homme de sa vie refuse fermement d'avoir un enfant.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est celle d'Estelle.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'aimerais que vous m'éclairiez sur un petit avis. Donc je porte des lunettes depuis des années, mais je pense de plus en plus à passer aux lentilles. Je sais qu'il existe des souples et des rigides. C'est quoi le mieux au final et le plus confortable pour moi? Voilà, passez une bonne après-midi, merci.
Merci beaucoup Estelle. Alors pour répondre à votre question de façon précise, nous avons interrogé pour vous le docteur Damien Gatinel. Il est chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild.
Alors il existe deux types principaux de lentilles, les lentilles dites souples, qui sont généralement des lentilles hydrophiles, et les lentilles rigides, qui sont dans un matériau plutôt hydrophobe, c'est-à-dire qui repoussent l'eau. Le choix du matériau et du type de lentille est conditionné par la correction à apporter et puis l'état de l'œil du patient, bien sûr. La grande majorité des adaptations de lentilles se font avec des lentilles souples hydrophiles qui sont plus confortables parce qu'elles se déforment, elles épousent plus facilement la cornée sur laquelle on les pose et elles permettent de corriger pratiquement tous les défauts visuels courants. Dans certains cas, en revanche, on va plutôt choisir une lentille rigide. Si la cornée présente une déformation particulière comme le kératocone, qui est une maladie de la cornée qui impose souvent le port de lentilles rigides par exemple, ou encore si le patient présente un déficit en larme, auquel cas il est parfois préférable de recourir à des lentilles hydrophobes qui n'absorbent pas les larmes qui sont au niveau du film lacrymal et qui sont produites de manière insuffisante par le patient.
C'était donc le docteur Gatinel au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question qui nous a été laissée sur Twitter pour vous, Jimmy, par une auditrice qui vous demandait comment gérer le masque depuis qu'il pleut souvent, évidemment en ce moment. En tout cas ici à Paris, je ne connais pas la météo ville par ville, mais on a beaucoup de pluie, il fait mauvais et c'est vrai que du coup, dehors, on doit être masqué et le masque peut très rapidement être très mouillé. Est-ce que Jimmy, il perd son efficacité? C'est sa question.
Oui, la réponse est clairement oui. De la même façon qu'on avait dit que les masques chirurgicaux avaient une durée de vie limitée. Au bout de 3-4 heures, il faut les changer. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est lorsque vous parlez, lorsque vous respirez, eh bien vous expulsez de l'air, du dioxyde de carbone et ça va rendre le masque poreux et donc il va être moins efficace, il va moins filtrer l'éventuelle salive, les gouttelettes qui vont propager du virus. On parle du coronavirus, mais vous allez aussi propager la grippe, d'autres infections respiratoires. Donc, s'il pleut, si votre masque est mouillé, eh bien, il n'est plus efficace. Et donc, il est bon, normalement, de le mettre à la poubelle.
Ah oui, j'allais dire à la poubelle, mais bon, si c'est un jetable, on le laisse sécher, on le lave. Même un chirurgical, j'allais dire, on ne peut pas le laisser sécher quelques heures et puis le remettre éventuellement.
Ma réponse aurait été différente, peut-être pendant la période du mois de mars, où nous n'avions pas de masque. Et je vous aurais dit, et je l'ai dit, on fait avec, on fait du mieux qu'on peut.
On recycle, on fait comme on peut.
On fait comme on pouvait, de toute façon, c'était compliqué. Mais là en revanche, les masques sont accessibles, d'autant plus que des hypermarchés ont cassé les prix, sont disponibles pour quasiment 10 centimes l'unité. Donc, on peut en acheter et on peut éviter en tout cas de tomber malade et de se donner toutes les chances possibles. Maintenant, si vous avez un masque en tissu, et on privilégie quand même ces masques en tissu.
Au moins d'un point de vue écologique aussi.
Pour l'écologie, c'est une catastrophe. Si on change le masque deux fois par jour pendant plusieurs semaines, encore plusieurs mois, à 30-40 millions de Français, il y a une catastrophe derrière qu'on, pour l'instant, on oublie, on ne veut pas parler. Donc prenez un masque chirurgical, un masque en tissu, faites-le sécher à ce moment-là. Si jamais vous l'avez porté toute la journée, eh bien il faudra le laver. Et rappelez-vous que l'Académie de médecine vous dit que vous pouvez le laver avec l'ensemble du linge. Vous n'êtes pas obligé de le faire à 30 degrés, 60 degrés.
À 90, 30... non. Ça
vous tue, l'avez avec
il
le
va être tué.
Ou avec de l'eau et du savon, ça marche aussi si jamais vous ne faites pas de machine. Mieux vaut des mesures pragmatiques que d'être dans une forme d'idéologie. Nous ne sommes pas dans un bloc opératoire, c'est une mesure de protection et il faut un peu de pédagogie, qu'on accepte cette mesure qui est là pour nous protéger. Ce n'est pas un outil de contrainte des libertés.
Puisque on parle des masques, Jimmy, j'ai une petite sous-question. Alors, enfin, c'est pas qu'elle est mauvaise la question, mais c'est dans la même thématique, on va dire. C'est une certaine Anaïs qui nous l'a envoyée. Elle nous demande si, puisque nous les adultes, on porte tout le temps le masque, est-ce qu'il serait pas temps aussi de faire essayer aux enfants le fait de porter un masque? Et si oui, à partir de quel âge?
Alors, je sais pas, honnêtement, j'ai pas de bonne réponse. C'est obligatoire à partir de 11 ans. Vous avez vu ce qui se passe quand ils sortent devant les collèges, les lycées, ils retirent le masque. Peut-être qu'ils tombent malades à ce moment-là. Je pense que c'est difficile. En revanche, si vous fréquentez un lieu comme des transports en commun, un magasin et qu'il y a beaucoup de monde, peut-être que votre enfant de 6-7 ans est en mesure de porter le masque correctement pendant une heure. En revanche, toute la journée, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Peut-être que les choses vont évoluer. L'OMS recommande à partir de 6 ans. Certains pays vont à 3 ans. Pour l'instant, je pense qu'il faut être raisonnable. Éviter les zones bondées. Et puis, sur une courte période, un enfant peut peut-être le supporter.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Maastis Agatchian. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes oncologue médical à l'hôpital américain, mais également à l'Institut Gustave Roussy. Et avec vous aujourd'hui, donc on est à la veille du lancement du mois octobre rose, le mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Eh bien on va faire un point sur cette pathologie, évidemment, et son dépistage surtout. Mais on va commencer par peut-être reposer un tout petit peu les choses dans leur contexte. Le cancer du sein, aujourd'hui en France en 2020, ça touche combien de femmes chaque année?
Alors ça reste toujours le premier cancer chez la femme. Ça reste le cancer qui touche un tiers des cancers des femmes. Première cause de mortalité par cancer chez la femme. Et on est aujourd'hui à 59 000 nouveaux cas de cancer du sein, 12 000 décès par cancer du sein tous les ans.
C'est beaucoup, effectivement. Mais c'est une maladie qui... Parce qu'on pense cancer du sein. Est-ce que c'est une maladie de la femme vraiment âgée ou est-ce qu'il y a beaucoup, finalement, de femmes jeunes?
Non, effectivement, l'incidence du cancer du sein commence à être significative, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas, dès l'âge de 40 ans. Ça augmente jusqu'à l'âge de 60-65 ans où on atteint le pic. Et puis, ça diminue après. Donc, finalement, non, c'est bien un cancer de la femme ménopausée, mais on a malheureusement 20% des cancers du sein qui surviennent entre 40 et 50 ans.
Jimmy ?
On dit souvent le cancer du sein, mais il y a des cancers du sein, sans trop rentrer dans les détails. On a plusieurs types et malgré tout, plus tôt il est pris en charge, mieux est l'espérance de vie, en tout cas le pronostic.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Sur un plan biologique, on a aujourd'hui 10 types de cancers du sein différents, sinon plus. C'est vraiment les progrès récents de la biologie moléculaire qui nous ont permis de mieux comprendre ces cancers. Ces cancers, ils vont évoluer différemment, ils vont avoir des pronostics différents et surtout des traitements différents. Et on arrive vraiment aujourd'hui à adapter le traitement à chacun de ces types de cancers du sein. Il y a aussi un impact de l'âge et les cancers un peu plus agressifs, par exemple, on les retrouve plus fréquemment chez les patientes plus jeunes. Alors, dans tous les cas, quel que soit le cancer, qu'il soit agressif ou pas, qu'il soit chez une femme jeune ou une femme âgée, clairement, le fait de le détecter précocement, donc, alors qu'il est encore petit, qu'il n'est pas encore parti hors du sein, c'est la seule façon de guérir du cancer du sein.
Justement, on va s'arrêter peut-être quelques secondes sur le cancer du sein, enfin l'un des cancers en tout cas les plus agressifs, celui qu'on appelle le cancer du sein triple négatif. Il y a eu, il y a quelques semaines, une nouvelle, alors apparemment prometteuse, vous allez nous confirmer ou pas, sur le venin d'abeille qui serait très intéressant pour ce cancer triple négatif. Bah, du coup, c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que c'est prometteur ou pas?
Tout à fait, c'est vrai que le cancer triple négatif aujourd'hui, c'est celui qui concentre le plus d'efforts de recherche parce que c'est le cancer qui tue le plus. C'est le cancer qui est le plus agressif, qui va rechuter le plus et malheureusement devant ce cancer on est un peu démunis, on a des chimiothérapies qui marchent plus ou moins, un peu d'immunothérapie. Alors on cherche de nouvelles pistes. Il faut savoir que la nature recèle de trésors incroyables. On a des chimios qui viennent de l'arbre qui est l'if, de la pervenche de Madagascar. En l'occurrence, dans le venin d'abeille il existe une protéine, une molécule, une chimiothérapie qui est en fait dans ce venin d'abeille, dont qu'on peut extraire du venin d'abeille et qui visiblement aurait un impact très très fort sur les cellules cancéreuses triple négatives. Alors cela dit, pas de faux espoirs, il faudra des années d'analyse, de développement, d'études pour que ça aboutisse à un médicament, mais voilà, croisons les doigts.
Jimmy ?
On reviendra tout à l'heure au dépistage organisé ou individuel, mais déjà d'une façon générale, une femme, elle peut elle-même sentir une petite grosseur, elle peut elle-même détecter un début de cancer ?
Bien sûr, nous on les voit hein, en consultation, c'est beaucoup de femmes qui se sont palpées quelque chose, ou leur mari, ou le gynécologue, et qui les amènent du coup à faire des examens. Alors, méfiance aussi parce qu'on peut palper des choses tout à fait bénignes.
Oui, chaque masse, boule, chaque grosseur, c'est pas un cancer.
C'est
hein,
ça, ouais. Une masse dans un sein, ça, c'est dans 95% des cas quelque chose de bénin.
95% des cas, ouais. Il faut le savoir, hein, ça oui. Rassure quand même. Hein, ouais.
Maintenant, même chez une femme jeune, comme on sait qu'il peut y avoir des cancers du sein, une masse qui est nouvellement apparue doit pousser à faire des examens, très basiquement une échographie par exemple.
Vous disiez donc les femmes qui se sont palpées, est-ce que justement cette autopalpation, ce geste de se palper soi-même régulièrement, c'est important? Si oui, les femmes, à partir de quel âge doivent le faire, à quel rythme à peu près?
Alors oui, c'est important, ça ne se substituera pas au dépistage. Parce que vous savez, quand on palpe quelque chose, c'est que ça fait déjà plus d'une certaine taille, plus d'un centimètre, ou que c'est déjà parti dans des ganglions. Malgré tout, il faut qu'on soit consciente de nos corps, il faut qu'on s'occupe nous-mêmes de nos corps. Voilà, donc sous la douche, quand on se crème de temps en temps, quand on est avec son conjoint, c'est aussi l'occasion de se toucher, de voir s'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là auparavant ou qui fait mal. Et encore une fois, très vite, aller faire des examens, pas le négliger.
Vous dites, lorsqu'on est sous la douche, lorsqu'on passe une crème, parce que peut-être on va rentrer dans une forme d'obsession, on se douche tous les jours, est-ce qu'il y a un moment du cycle où on pourrait le faire? Est-ce qu'on doit le faire tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, et à partir de quel âge?
Oui, c'est très juste cette question du moment du cycle, parce que c'est vrai que nos seins changent au cours du cycle, ils sont beaucoup plus sensibles et toutes les anomalies se palpent un peu plus avant les règles. Une fois les règles passées, le meilleur moment, c'est probablement dans les 10 jours après la survenue des règles, où les seins sont plus facilement palpables. C'est vrai d'ailleurs pour les examens aussi qu'on fait, les IRM, etc. L'âge de début, je dirais 35-40 ans. Mmh. Avant, on a beaucoup d'anomalies qui sont bénignes, fort heureusement. Donc je pense que ça générerait beaucoup trop de stress.
Mmh. Docteur Sagatian, on va poursuivre cet entretien. Mmh. Dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sur notre plateau cet après-midi, notre invité c'est vous, professeur Maastis Sagatian. Je rappelle que vous êtes oncologue médical à l'hôpital américain et à l'Institut Gustave Roussy. Et aujourd'hui avec vous, on parle du dépistage du cancer du sein. À présent, on va quand même juste refaire un point sur le dépistage organisé, puisque depuis 2004 finalement, il est systématique. Pour en tout cas les femmes qui le souhaitent, elles sont invitées à partir de 50 ans à y participer. Est-ce qu'on peut dire que ce dépistage de masse de toutes les femmes de plus de 50 ans jusqu'à 74, c'est une réussite en France à ce stade ou pas ?
On peut le dire honnêtement parce que maintenant on a plus de 20 ans d'expérience sur les programmes de dépistage organisés et toutes les études, qu'elles soient françaises ou internationales, montrent que le dépistage a permis de diminuer la mortalité par cancer du sein de 20%. C'est gigantesque. Figurez-vous que c'est plus que les progrès qu'on a fait en termes de traitement, de chimio, d'hormonothérapie ou autre. C'est le dépistage aujourd'hui qui est le meilleur traitement du cancer du sein.
Mais toutes les femmes n'y participent pas. Elles devraient être au moins, je sais pas, 100% de cette tranche d'âge. Je crois que c'est même pas 50% ou à peine 50%, c'est pas beaucoup.
Exactement ça, c'est l'échec du dépistage. C'est d'une part de ne s'intéresser qu'aux femmes de 50 à 74 ans et depuis qu'il existe le dépistage, ça reste 50-74 tous les deux ans. Il n'a pas évolué avec le temps et ça devrait venir. D'autre part, effectivement, c'est que malheureusement, les femmes n'y vont pas.
Jimmy ?
Donc vous l'avez dit, de 50 à 74 ans, une mammographie tous les deux ans. Mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 74 ans, à 75 ans, on ne fait plus d'examen ?
Non, vous le savez bien, Jimmy, en fait, malheureusement, ce cancer du sein, il continue à toucher les femmes plus âgées. Ce qu'on n'a par contre pas réussi à démontrer, c'est qu'après 74 ans, dépister toutes les femmes allait avoir un impact sur la prise en charge de ce cancer et la mortalité par cancer du sein, parce que c'est ça qu'on vise.
On en a parlé tout à l'heure, vous disiez l'autopalpation pour toutes les femmes devrait se faire régulièrement, mais on va revenir quand même sur quelque chose. Ça n'empêche pas non plus d'avoir un suivi gynéco régulier au-delà du dépistage, hein, pour se faire palper aussi par le médecin, hein, ça c'est important.
Absolument.
Tous les ans.
Oui, parce que ce n'est malgré tout pas facile de s'autopalper. Et la palpation faite par le médecin est une palpation experte qui va explorer toutes les zones du sein, qui va explorer les creux axillaires, qui va permettre de mieux distinguer.
Les creux axillaires, c'est sous les selles, hein,
oui,
bien
absolument,
sûr.
Absolument, sous les selles, de distinguer ce qui est effectivement inquiétant de ce qui ne l'est pas, donc ça ne change rien. Et puis ça permet aussi d'avoir un bilan plus complet, en particulier pour les cancers du col, hein, qu'il ne faut pas oublier avec le frottis.
Je reviens sur le dépistage organisé, donc l'examen type, hein, c'est la mammographie. Il faut dire que la mammographie quand même, cet examen en lui-même, il n'est quand même pas très agréable. Et certaines n'y vont pas à cause de ça aussi, hein. Ça fait mal une mammographie ou pas?
Alors, vous avez raison, moi-même j'aime pas trop aller faire mes mammographies, ça ne fait pas vraiment mal, ou alors ça fait mal quand c'est au mauvais moment du cycle, ou chez certaines femmes qui ont des petits seins qu'il faut beaucoup comprimer. Il y a eu pas mal de progrès là-dessus, hein. Les appareils de mammographie aujourd'hui nécessitent beaucoup moins de compression du sein, il y a même des appareils qui font des images en 3D, des appareils avec des télécommandes,
c'est la
génial.
Femme qui maîtrise la compression,
tout
ça
à
c'est
fait.
Beaucoup plus rassurant, finalement on va plus loin, on compresse plus quand on se le fait soi-même que quand c'est le manipulateur. Hein.
Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension sur cette compression. Et quand on vous comprime le sein, c'est quand même moins agréable que de choisir de le faire soi-même.
Jimmy ?
Bon, néanmoins, c'est un examen qu'on doit quand même faire. On peut faire aussi chez les hommes des échographies endorectales pour voir le poids de la prostate. C'est pas forcément agréable, mais il faut le faire. Comment ça se passe concrètement ? Ça dure très longtemps ? Est-ce que c'est irradiant ? Parce que parfois, les patients vont se dire ah « bah, si on fait des examens tous les deux ans pendant 20-25 ans, est-ce que je ne vais pas avoir d'autres maladies ? Est-ce qu'on peut les rassurer à ce niveau-là ? »
Oui, parce qu'aujourd'hui, et surtout avec les appareils plus modernes, les doses d'irradiation sont beaucoup plus faibles. Même si on faisait des mammographies tous les ans pendant 20 ans, on n'enclencherait pas un cancer du sein, sauf dans des cas très particuliers de femmes très sensibles aux radiations ionisantes. Mais ça, c'est des maladies que l'on connaît. Donc honnêtement, zéro risque.
On parle de dépistage et donc de chercher un cancer, mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'éviter ? Est-ce qu'il y a des petits moyens simples de prévention qu'on pourrait tous ou toutes appliquer ?
Alors vous savez, même quand on parle de dépistage, ce qu'on cherche dans le dépistage et sur la mammographie, ce n'est pas toujours le cancer, c'est très souvent la cellule précancéreuse, le bourgeon de cancer. Vous savez, ces fameuses microcalcifications qu'on cherche ou ces modifications de la structure du sein.
Et c'est ça qui nous fait classer en ACR1, ACR2. Enfin, les femmes qui ont passé des mammographies le savent. Des fois, avec des petites calcifications, on passe en 2, mais ce n'est pas des cancers.
Exactement. Et ce que la mammographie, et c'est ça qui permet vraiment le dépistage, c'est de détecter les cellules précancéreuses, les cellules qui deviendront 3 ans, 5 ans après un cancer constitué. Donc le dépistage, c'est de la prévention, parce que quand vous enlevez ces bourgeons de cellules cancéreuses, bah vous n'avez plus de cancer. Après, ça ne suffit pas. Et alors, il y a énormément d'études récentes, hein, sur des centaines de milliers de femmes qui montrent le bénéfice de mesures alimentaires, hygiéno-diététiques et de l'activité physique.
Ça c'est
majeur. Hein.
Et l'alcool ?
Et l'alcool.
Parce qu'on pense au tabac, mais en fait, le tabac, ce n'est pas tellement pourvoyeur de cancer du sein. Du poumon, ça, on le sait, mais de sein, non. L'alcool, oui, par contre.
C'est tout à fait juste, Mélanie. Et en fait, le tabac, c'est par l'association tabac-alcool qu'il intervient. Mais chez les femmes, le sein est une espèce d'éponge à alcool. L'alcool, chez les femmes, des un verre par jour, ce qui n'est pas beaucoup, hein, dans nos. Voilà, c'est un peu voilà, l'alcoolisme social. Des un verre par jour, ça augmente le risque de cancer du sein. Et tout particulièrement chez les femmes jeunes.
Docteur Sagetchian, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Mastis Agatchian. Je rappelle que vous êtes oncologue médical à l'hôpital américain et à l'Institut Gustave Roussy. Alors, on est à la veille du mois d'octobre rose. Nous faisons le point aujourd'hui sur le dépistage du cancer du sein. Et donc là, on vient de parler jusque-là du dépistage de masse organisé pour les femmes de plus de 50 ans depuis 2004. Mais depuis quelques temps, il y a une approche qui s'intéresse de plus en plus, en tout cas de plus en plus d'experts s'intéressent à une approche plus individualisée. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement au dépistage organisé pour se dire, tiens, il faut peut-être aller faire quelque chose qui est plus sur mesure?
En fait, il y a deux choses qu'on lui reproche à ce dépistage organisé. D'abord, le fait que malheureusement aujourd'hui, les femmes n'y participent pas suffisamment, et ça, c'est notre responsabilité. Elles ne sont sans doute pas convaincues, se sentent pas concernées, etc. etc. L'autre chose, c'est que en presque 20 ans, ce dépistage, il n'a pas évolué. Or, la science a considérablement changé. Aujourd'hui, on a les progrès de la biologie moléculaire, on a les progrès de la mammographie, on a les progrès des big data. Aujourd'hui, on est enfin capable de dire pour une femme donnée quel est son risque de cancer du sein et adapter ce dépistage au risque individuel de la femme.
Jimmy. Donc proposer une approche individualisée, ça veut dire que c'est quasiment de la médecine à la carte et en fonction de vos risques, de votre âge, eh bien peut-être qu'on ne serait pas obligé de faire une mammographie tous les deux ans, peut-être d'espacer dans le temps certains examens ?
C'est exactement ça. En fait, il y a deux volets. C'est faire plus pour certaines les plus à risque, commencer à 40 ans typiquement, et pour les femmes à risque, même dès 40 ans, faire des mammos tous les ans par exemple, et faire moins pour celles qui sont moins à risque. À 50 ans, tout le monde n'a pas besoin d'une mammographie tous les deux ans.
Alors justement, il y a une très grande étude baptisée MyPeps, à laquelle la France participe, qui doit comparer les deux approches, hein, dépistage organisé, dépistage personnalisé. Qu'est-ce qu'on va regarder cette étude concrètement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment?
Alors cette étude qui a été initiée à l'Institut Gustave Roussy par le docteur Delaloge, c'est une étude incroyable qui va révolutionner le dépistage de masse et le dépistage d'ailleurs à l'échelle européenne. C'est une étude qui va concerner 80 000 femmes, c'est énorme, chez qui on va appliquer cette procédure du dépistage personnalisé et comparer ce que les cancers qu'on va détecter ou pas et ce que vont devenir ces femmes à une procédure de dépistage classique. Et l'objectif, c'est vraiment de changer considérablement les politiques de dépistage de l'ensemble de ces pays européens.
Malheureusement, on n'aura pas les résultats tout de suite. Il va falloir attendre encore quelques années, mais on les attend avec impatience. Alors justement, vous, à l'hôpital américain où vous travaillez, vous avez un petit peu devancé les autres puisque vous proposez depuis quelques années un bilan personnalisé aux femmes pour venir évaluer leur risque individuel de cancer du sein. Ce bilan, ça dure 2 heures et ça comprend quoi comme test?
Alors justement, c'est la mise en pratique de ce qu'on a dit. Nous, on va faire une mammographie aux femmes pour évaluer leur densité mammaire. La densité mammaire, ça vous pouvez le lire sur votre compte rendu de mammographie, c'est un facteur de risque de cancer du sein. Plus on a des seins denses, plus on est à risque de cancer du sein.
Mais attention, moi je croyais que seins denses, ça voulait dire gros seins, c'est pas ça du tout.
Non, heureusement pour vous,
moi, j'ai découvert que j'avais des seins pas du tout denses en fait.
Heureusement pour vous, Mélanie, et pour moi, ce n'est pas une question de taille.
C'est quoi un sein dense alors?
Un sein dense, c'est en fait un sein, c'est fait de tissus fibreux et de gras. Et plus on a de gras, moins on a des seins denses. Plus on a de fibres, plus on a de seins denses. Et le cancer va se développer dans la partie fibreuse. Et ça, c'est quelque chose où on est avec, enfin, quand nos seins commencent à se développer, et ça évolue avec le temps, sous l'effet des hormones, sous l'effet de l'âge. C'est quelque chose, mais qui ne se voit qu'en mammographie. C'est pas la palpation, c'est pas la taille.
C'est intéressant, non, Jimmy, cette histoire de densité, parce qu'on n'en parle jamais, hein, finalement.
Non, c'est vrai que c'est dans l'esprit du grand public, et peut-être même de certains professionnels, densité importante égale gros seins, alors que finalement, non. Mais vous, donc, il y a l'examen, il y a aussi un interrogatoire. Est-ce que l'impact des antécédents familiaux prend une place prépondérante dans ce que vous allez faire? Et puis aussi le mode de vie de certaines femmes. On parlait de l'alcool tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous allez, auxquelles vous allez poser des questions?
Alors oui, il y a quelque chose aussi qui n'est pas très connu. C'est le fait d'avoir eu une biopsie dans un sein auparavant. Alors pas tant parce que la biopsie elle-même, la biopsie c'est quand on va mettre une aiguille, prélever quelque chose dans le sein. La biopsie ne vous met pas à risque de développer un cancer. Mais par contre, le fait d'avoir eu une biopsie, ça témoigne d'anomalies qui sont dans le sein qui ont amené à faire cette biopsie. Et statistiquement, avoir eu une biopsie mammaire est un facteur de risque de cancer du sein. Donc il y a effectivement l'impact familial, le mode de vie, la biopsie et la densité mammaire.
Donc dans cette consultation personnalisée que vous proposez aux femmes, dès quel âge d'ailleurs à l'hôpital américain?
Dès 40 ans.
Dès 40 ans, donc il y a une mammographie, on regarde la densité mammaire, il y a un interrogatoire très poussé sur l'hygiène de vie, les risques, on a eu une biopsie ou pas. Mais il y a aussi un test génétique. Qu'est-ce que vous cherchez avec ce test?
Alors ce test génétique, il est aujourd'hui réalisé à l'Institut Curie, qui est vraiment un centre de référence sur ce sujet-là. Ce test, c'est un test salivaire. On va prélever un peu de salive et de cellules mortes dans la bouche. On va extraire de l'ADN et on va regarder là-dessus la combinaison de 76 gènes qui vont faire pour chacune d'entre nous comme un code-barre. Un code-barre de notre patrimoine génétique qui nous protège ou qui nous met à risque de cancer du sein. C'est vraiment ce qui fait aussi l'injustice devant le risque de cancer du sein. Pourquoi une femme l'a et pourquoi une autre ne l'aura pas?
Et donc, à la fin de la consultation, vous avez plein de données. Comment est-ce que vous les intégrez? Vous avez un score, quelque chose qui pourra ensuite déterminer une prise en charge ou en tout cas un suivi?
C'est exactement ça. En fait, il y a une boîte d'intelligence artificielle et de biostatistique française, et on en est fiers, qui s'appelle PrediLife. Ils ont mis au point un algorithme qui va combiner toutes ces données et qui va permettre, en comparaison à une cohorte de 1 300 000 femmes, donner pour chaque femme, de chaque nouvelle femme de cette cohorte, le risque de cancer du sein dans les 5 ans qui viennent. Et donc on dira à notre patiente, votre risque est de 1%, 2%, 3%. En fonction de ça, on sait exactement quel est le bon rythme de mammographie et s'il faut faire une mammographie.
Merci beaucoup docteur Sagatian d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir décrypté ce que c'est aussi et ce que sera peut-être le futur du dépistage plus individualisé. Merci encore.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur un gros bobo, un bobo très redouté de ceux qui l'ont déjà subi, la terrible crise de colique néphrétique. Savez-vous ce que c'est? Pourquoi ce caillou se forment dans les voies urinaires pour nous torturer. Mais surtout, savez-vous comment ça se traite? On va tout vous expliquer, bien sûr. Mais d'abord, on va écouter le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
Je pense qu'en bon français, on appelle ça un vent de panique. Allez, paye un café que tu vas pas boire, mais qu'il faut que tu utilises les toilettes du bar.
Une colique, c'est quand t'as besoin d'aller aux toilettes, quand t'as les selles hyper liquides.
Alors, les coliques, c'est ce qu'ont les bébés parce qu'ils ont mal au ventre, un mauvais fonctionnement du transit. Et du coup, la digestion se fait pas normalement. Et du coup, faut marcher. Marcher, marcher, faut être en mouvement parce que si on s'allonge, ça reste comme ça et ça ne passe pas.
Bon, ça peut être lié à plein de syndromes. Il y a le syndrome de la maladie de Crohn ou.
Une bactérie plus qu'un virus ou quelque chose comme ça.
Je sais que moi, pour les bébés, il faut masser le ventre tout doucement, ça va fluidifier ta digestion, enfin tes intestins et ça va te faire aller à la selle.
Je dirais plus tout ce qui est Imodium ou Smecta, ce genre de médicaments.
Je ne sais pas, un anticolique.
Madjimi, je crois que c'est le pire de l'histoire des micro-trottoirs. Ah oui, les gens ne savent pas du tout ce que c'est. Alors, moi, c'est vrai que je pensais que c'était un truc très connu parce que j'en ai eu une et que j'ai cru mourir, mais apparemment, c'est pas du tout ça, on est d'accord.
Bah, ça prouve qu'on a une culture médicale très mauvaise et c'est peut-être aussi valable pour des maladies bien plus graves comme l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Alors, la colique néphrétique, tous ceux qui en ont eu une s'en souviennent.
Je vais dire un petit truc quand même, un truc que vous m'avez confié, vous m'avez dit, moi, c'est une des indications, une des consultations que je préfère parce que quand j'arrive, j'ai l'impression d'être un super-héros.
Et oui, c'est vrai que quand je travaille à SOS Médecin et que je viens à domicile et que le patient se tortille dans tous les sens et qu'on le soulage, puisque le traitement, en règle générale, marche quasiment dans la minute ou dans les 2-3 minutes.
On vous aime à ce moment-là.
On apparaît comme un super-héros, mais malheureusement, ensuite, je rentre chez moi et ensuite, je ne suis plus du tout un super-héros,
c'est ça.
Je redeviens...
Mais c'est très satisfaisant pour un médecin,
exactement.
En tout cas.
Mais c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'on se rend compte qu'on les soulage et ils vont rapidement mieux.
Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, quand on a une colique? Rien de transit, hein, rien à
exactement,
voir avec le transit.
Et peut-être effectivement que la confusion vient du colique, on pense que ça vient du système digestif. Non, c'est l'appareil urinaire. Vous avez votre rein qui va sécréter de l'urine et qui va être relié avec un petit tuyau jusqu'à la vessie. Et puis de la vessie jusqu'aux organes génitaux, vous avez un autre tuyau. Et bien si jamais il y a un calcul qui se forme, un petit caillou, et bien l'urine ne va pas passer. Et quand l'urine ne passe pas, vous avez tout ce qui est au-dessus qui va se mettre sous tension, qui va se dilater et qui va faire extrêmement mal vu que l'urine ne passe pas. Et donc ça donne des douleurs terribles, abdominales, plutôt au niveau des fosses lombaires, c'est-à-dire derrière le dos, au niveau du...
Comme quand on a c'est un pire que des contractions pour un accouchement.
Exactement. Et on dit souvent, je l'avais dit, mais je crois que vous n'en souvenez plus, Mélanie, on dit colique néphrétique frénétique parce que les patients bougent dans tous les sens. Ils n'ont aucune position antalgique. Ils ne savent pas comment se mettre pour soulager la douleur.
Bon, comment ça se traite, Jimmy? Parce que c'est quand même ça le plus important. Vous arrivez, vous faites une piqûre, vous l'avez dit, mais de quoi?
Exactement. Alors, la base du traitement, c'est les traitements anti-inflammatoires qui permettent de dilater les voies urinaires pour que le calcul s'évacue. Et lorsque ça ne marche pas, on peut injecter de la morphine. Et quand ça ne marche pas, eh bien c'est que le calcul obstrue trop les voies urinaires. Et dans ces cas-là, il faut aller le chercher. Donc ça passe par une intervention chirurgicale qui se fait en règle générale assez facilement.
Très bien. Alors, je crois qu'il y a un risque de récidive quand on a déjà fait une crise de colique. Comment on évite? Il faut changer des choses dans son hygiène de vie, je
pense. Tout d'abord, si vous récupérez le calcul, ne le jetez pas à la poubelle.
Ah bon?
Amenez-le pour le faire analyser, puisqu'il y a différents types de calculs.
Bien sûr.
En fonction du calcul, on peut vous proposer un mode de vie, un régime alimentaire adapté. Certains vont avoir des urines qui vont être trop acides, d'autres trop alcalins. Eh bien, à ce moment-là, on vous conseillera des eaux particulières. Et souvent, ça vient d'une insuffisance d'hydratation. Et on en voit beaucoup plus lorsqu'il fait chaud. On oublie de boire. C'est propice à la formation de calcul. Donc si vous faites un épisode, allez voir votre médecin, il vous orientera vers un urologue pour faire un bilan et éviter les récidives.
Et surtout, on garde bien le petit caillou. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. C'est Catherine Blanc qui entre dans ce studio pour cette dernière séquence de l'émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question d'Elsa que va vous lire Jimmy Mohamed.
Le grand lecteur Jimmy Mohamed.
Bien sûr, on adore.
Je lis la question. Je suis en couple depuis 5 ans avec celui que je considère comme l'homme de ma vie. Cependant, il est catégorique sur le fait qu'il ne souhaite pas avoir d'enfant alors que moi, oui. Je commence de plus en plus à douter de la pérennité de notre relation à cause de ça. Qu'en pensez-vous ? Catherine, c'est un motif légitime de querelle, non? Le fait de vouloir des enfants pour l'un et pas du tout pour l'autre?
Absolument, parce que c'est vraiment, j'allais dire, un incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer... Il y a des choses sur lesquelles on peut se dire, bon, ben, moi je suis plutôt...
Le mariage, on peut dire, je suis contre le mariage. Mais avoir des enfants, c'est quand même un objectif pour beaucoup de gens.
Ça peut être un objectif pour beaucoup de gens. Mmh. Et pouvoir le refuser, et pas pouvoir s'y sentir bien, ce peut être aussi éminemment légitime. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, cette idée que c'est l'homme de ma vie. Certainement qu'elle, elle y a vu effectivement, Elsa, tout ce qu'elle aime, de ce qu'il est, et aussi le géniteur formidable. Il se trouve que le géniteur n'a pas l'intention d'être géniteur. Alors on pourrait se dire que c'est donc, arrêtons de dire, c'est l'homme de ma vie, puisque des hommes de notre vie ou des femmes de notre vie, dans la réalité, rendons-nous à l'évidence qu'il y en a énormément sur la planète. Simplement, le hasard a fait que c'est dans notre ville, ou dans notre village, ou dans notre bureau qu'on a rencontré l'homme de notre vie. C'est parce qu'on n'est pas allé voir beaucoup plus loin. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, c'est, disons-nous aussi, que les relations, elles évoluent. Elles évoluent avec le temps. Il y a Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Eh bien, on peut se dire que les uns et les autres, nous pouvons revenir sur des choses de cet ordre-là. Simplement, il faut savoir aussi que s'engager avec quelqu'un, c'est risquer de ne pas aller vers son objectif personnel. Donc, si c'est trop douloureux, évidemment qu'à un moment donné, il y a un terme. On ne voit pas au nom de quoi il faudrait contraindre un homme à avoir des enfants, ni au nom de quoi une femme devrait se priver de sa maternité et en souffrir, puisque la relation sera toujours assujettie à celui qui aura cédé ou celui qui aura contraint. Et envenime toute la relation elle-même.
Elle dit qu'il est catégoriquement contre. Est-ce que ça veut dire que vraiment c'est définitif? Parce qu'on le sait tous, on peut changer d'avis parfois. Peut-être qu'il n'est pas prêt encore, c'est tout. Enfin, est-ce qu'elle peut avoir de l'espoir ou est-ce que c'est foutu? Il faut qu'elle aille chercher un autre géniteur, quoi.
Je pense qu'on ne peut pas jamais savoir effectivement jusqu'où est ce catégorique. C'est peut-être parce que simplement ce n'est pas le temps, ce n'est trop jeune. Ou alors c'est extrêmement anxiogène. Dans l'histoire de chacun, il peut y avoir des choses qui ne laisse pas imaginer une seule seconde de pouvoir mettre à la vie un être humain, engendrer ou avoir la responsabilité d'un enfant et de ce que ça représente d'engagement définitif. Donc, il n'y a qu'elle et lui qui savent comment se situer. Peut-être peut-il s'interroger un peu plus en détail, peut-être ponctuellement chez un psy, mais une femme n'a pas à contraindre un homme et sans pour autant se priver de sa maternité.
Alors que souvent on dit que la vie à deux, c'est une vie de concession, on fait des efforts. Là, en revanche, là, il n'y a pas de négociation possible. Mais peut-être que ça dépend aussi de son âge. Si jamais elle a 35 ans, ce n'est pas la même urgence que si elle en avait 25. Absolument. Malheureusement, l'horloge biologique tourne. Et au bout d'un moment, si elle perd son temps, elle n'aura pas ce qu'elle désire. Et peut-être que la frustration sera encore pire, même si elle peut l'accepter temporairement, mais dans 3-4 ans, regretter encore plus son geste.
Oui, et d'ailleurs, ça pose la question, du coup, pourquoi trouve-t-elle que l'homme de sa vie, c'est justement l'homme qui ne veut pas faire d'enfant avec elle? Donc là aussi, on peut s'interroger si d'aventure, elle a 35 ans, qu'elle est dans les dernières années, ça lui laisse encore du temps, bien sûr, mais dans les dernières années, pour pouvoir changer la lecture que cet homme pourrait avoir de la parentalité, c'est assez curieux de se dire que celui que j'aime, c'est celui qui me privera. Donc ça peut faire référence d'ailleurs à une histoire personnelle qui n'a strictement rien à voir avec ce couple, qui est l'idée que l'amour est source de privation et c'est ce qu'elle rejoue peut-être dans sa relation de couple.
Qu'est-ce qu'elle pourrait lui, je sais pas, le faire pour lui donner envie peut-être d'avoir un bébé? D'ailleurs, est-ce que ça sert à quelque chose d'insister un peu ou pas?
Oh, je pense que les femmes sont fut-fut. Souvent, elles vont aller trouver leurs amis qui ont des enfants les plus choux possibles.
Plus mignons pour lui mettre devant. Regarde comme c'est beau.
Mais pas d'enfant dans le dos. C'est-à-dire qu'on se met pas à oublier sa contraception pour se dire, bon, bah maintenant il sera devant le fait accompli.
Je crois que c'est la base.
Avec.
Quand même,
c'est pas du tout une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée, surtout qu'il pourrait insister pour de réclamer un avortement, qu'elle se sentirait trahie à ce moment-là, brusquée dans son corps le cas échéant.
Ça se fait pas.
Donc, non, je crois que ça n'est pas bien, surtout quand on sait pertinemment que ce n'est pas un désir. Ce serait une grosse trahison.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils précieux. Comme toujours, je vous dis à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. On l'a fait parfaitement en cœur aujourd'hui,
oui.
Stéphane.
Bah, c'est-à-dire, nous, on n'a pas de problème de famille.
Non.
Mais là, aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on va vous parler de familles très particulières.
Hein. Ah, il y aura les Borgia, ils étaient particuliers déjà.
Oui, on s'aimait bien.
Mais...
Et les Kennedy aussi, dans l'histoire, ça a été une famille un peu tourmentée.
Et on verra qu'ils ont mis pas mal de poussière sous le tapis, si j'ose dire. Et moi, je vous parlerai d'une famille en or, mais au sens propre du terme, les Kardashians, l'émission préférée de Stéphane.
Merci Mathieu, merci Stéphane, très beau programme, on sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, je vous le conseille, surtout restez sur Europe 1.